Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Radio Campus. Tout de suite, une nouvelle émission sur les créneaux de campus, donc Random, l'émission des hackers lillois. Donc j'ai laissé la parole à DB pour faire la présentation de l'émission.
Alors, Random, donc émission aléatoire, d'où le fait qu'on n'a pas commencé à l'heure et qu'on a eu un petit morceau de punk entre deux. Donc c'est l'émission du groupe Dégénéré Science Lille, donc un groupe de hackers qui s'est fondé cet été en fait. On existait avant mais pas sous cette forme-là. Donc une émission sur la contre-culture hacker, histoire de défricher un petit peu tous ces mouvements-là. Histoire également de casser les amalgames, casser les préjugés, et puis pourquoi pas trouver des solidarités, essayer de faire des choses avec le monde militant, puisque le milieu hacker est pour l'instant quand même très très isolé des milieux militants. Et puis essayer de faire passer nos idées, essayer de faire passer un petit peu les concepts de liberté de circulation de l'information, de protection de la vie privée, etc. Et puis, déjà, si on arrive à faire ça, ce sera bien.
Voilà. C'est peut-être intéressant de définir ce que c'est qu'un hacker, non ?
Alors, un hacker, donc, le terme hacker, pas question de reprendre un petit peu les termes et les amalgames qui sont utilisés, malheureusement, par la police, par l'État, par le business de la sécurité informatique, le business de la défense, et puis également qui est utilisé par les mauvais médias de masse. Le terme hacker, nous utilisons au sens historique, qui signifie tout simplement bidouilleur en anglais. Donc voilà, bidouillage informatique, bidouillage électronique, bidouillage de toute technologie, détournement de technologie. Voilà, tout simplement.
Et l'émission va se découper comment ?
Alors l'émission va se découper comment ? Dans un premier temps, c'est une émission un peu spéciale puisque c'est l'émission zéro, l'émission première, primordiale, mais... Donc, dans un premier temps, en fait, l'émission va se passer en trois temps. La première des choses, ça va être l'actualité, donc voir un peu ce qui s'est passé, puisque l'émission va se passer une semaine sur deux, donc un dimanche sur deux, 19h-20h. Et donc, dans un premier temps, présenter l'actualité, ce qui s'est passé pendant deux semaines, les choses un petit peu intéressantes dont les autres émissions n'ont pas forcément parlé, et puis dans les médias n'ont pas forcément relayé l'information. Dans un deuxième temps, on développera un sujet de l'actualité, donc ce qui permettra en fait de parler plus longuement d'un sujet précis, donc de présenter un petit peu le point de vue hacker sur un point d'actualité récente. Et puis troisièmement, on parlera de choses un petit peu techniques dans un troisième temps. Ça peut aller de tout et n'importe quoi, bidouillage électronique, présenter un petit peu présenter tel ou tel logiciel, telle ou telle technique, telle ou telle façon de faire. Histoire histoire à la fois en fait de concilier le public hacker habituel, on va dire, et puis d'un autre côté le public novice, public qui connaît pas, en ciblant vraiment un public militant ou politisé. Et donc ce sera une émission un petit peu généraliste sur le mouvement hacker, en sachant que ça risque d'être la première. Alors la première, je sais pas trop, peut-être qu'il y a eu d'autres émissions radiophoniques spécifiques au mouvement hacker, mais des émissions à l'heure actuelle, il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout, donc ça peut être une bonne tribune pour le mouvement hacker, et ça peut être également un bon point d'entrée pour le mouvement hacker. Pour les militants, pour les milieux militants, pour les personnes politisées, etc.
Bon. Je pense que avant de passer à la première partie, on va vous laisser sur une petite place musicale. Donc vous pouvez nous appeler sur au 03 20 91 24 00. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 FM. Voilà, c'était New Way Part 2 de Substitution. Avant, on a écouté Lobat, Room, Broom, Gray and a Mirror, qui devrait normalement être le générique de l'émission. Donc voilà. Ces albums ont comme particularité d'être des albums de musique libre, c'est-à-dire qu'on peut les diffuser, pour certains les modifier librement, mais le droit de diffusion reste. Donc on vous mettra tout à l'heure des URL sur le site de l'émission pour que vous puissiez télécharger les morceaux. Donc l'émission Random a un site, donc c'est
lille.dg-c.org/random.
Donc voilà, et où il y aura toutes les URL vers les sujets desquels on a parlé, éventuellement vers les démos techniques de la dernière partie de l'émission. Donc voilà. Donc on parlait tout à l'heure d'actualité, et quelles sont les actualités ?
Alors les actualités, donc l'actualité la plus marrante de la semaine, c'est une excellente nouvelle qui nous vient du Conseil constitutionnel qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Eh bien il n'a pas censuré la fameuse loi Hadopi 2. Donc c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, toutes les politiques de surveillance d'Internet vont échouer les unes après les autres. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'à partir de maintenant, les gens qui téléchargeaient l'immense majorité des internautes français et mondiaux ont pris l'habitude de télécharger, c'est entré dans les comportements, hein, tout le monde le sait. Et bien maintenant, en fait, au lieu de passer par des circuits qui étaient surveillables, vont massivement se tourner vers des technologies plus sécurisées, donc que ça soit par des réseaux d'échange anonymes et intraçable, soit bien par d'autres, par les réseaux privés virtuels notamment. Et en fait, tout ça, ça a en commun quoi ? Bah, ça a en commun l'utilisation quasi systématique de techniques de cryptographie. Autrement dit, les gens vont se rendre compte que, globalement, avant, ils cliquaient et c'était pas sécurisé. Maintenant, ils vont cliquer toujours aussi simplement et ce sera sécurisé. Ils vont se rendre compte que la cryptographie, c'est très facile à utiliser parce qu'il suffit de cliquer, ça change absolument rien. C'est uniquement que du point de vue de la connexion réseau, c'est chiffré. Ils vont donc comprendre que les techniques de cryptographie, c'est pas que pour les banques. Ça peut être également utilisé très facilement par les citoyens. À partir de maintenant, les gens vont prendre l'habitude d'utiliser de la cryptographie. Et ça, c'est une excellente chose.
Et donc, dans les autres actualités ?
Dans les autres actualités, on a dimanche dernier. Dimanche dernier, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Theodoroth a publié la nouvelle version d'OpenBSD, donc, qui est numérotée 4.6. Donc OpenBSD, système informatique orienté sécurité. C'est un projet qui a été monté en 95 et qui n'a connu que deux failles de sécurité majeures depuis cette époque-là. Donc c'est un record. Et donc dimanche 18, OpenBSD 4.6 est sorti. On va vous faire écouter la chanson qui a été publiée. Non, on va pas vous la faire écouter. Random émission aléatoire. On vous la fera peut-être écouter par la suite. Ça nous permet également, en parlant de la sortie d'OpenBSD 4.6, de parler de copains de Ch'tinux, groupe d'utilisateurs de logiciels libres de la métropole lilloise, qui organise le mardi 10 novembre, dans le cadre des mardis du libre, deuxième mardi de chaque mois. Et donc au mois de novembre, donc le 10 novembre, ça va tomber sur une conférence de présentation d'OpenBSD 4.6. Donc une conférence où il y aura a priori une machine où on montrera comment ça fonctionne, enfin comment installer OpenBSD, comment se débrouiller un petit peu au départ. Donc une conférence qui n'est pas forcément dédiée à un public non averti, hein, c'est pas spécialement destiné au grand public, on va dire. Mais donc il y aura une présentation d'OpenBSD 4.6 organisée par l'association Ch'tinux, donc vous pouvez les retrouver donc sur www.ch'tinux.org et on dit bonjour aux copains. Enfin bonsoir.
Ouais. La dernière actualité de la semaine, c'était le festival qui était organisé par Chiche et le DAL sur les RFID. Alors c'est un festival où il y a eu des débats, des projections de différents films. Donc ça a commencé jeudi donc avec une projection du film Le silence des nanos donc de Julien Collin. On était présent à ce festival pour voir un peu ce qu'elle a dit sur les RFID, les nanotechnologies. Déjà ce qu'on a remarqué dans le film, c'est que il y avait la première partie était assez répétitive. On a considéré que c'était un peu à la limite de la manipulation, le montage tel qu'il avait été fait dans la première partie, alors que la deuxième partie s'est révélée être assez intéressante, où il y a pas mal de choses qui ont été soulevées au niveau de la toxicité des nanos. Des nanotechnologies. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites au niveau de la vie privée, des problèmes pour la vie privée que causent les nanotechnologies, mais là, ça me semble, et ça nous semble un peu être un mauvais roman, d'imaginer que les nanotechnologies posent dans l'immédiat des problèmes au niveau de la vie privée. Ça vient un peu de l'amalgame qui a été fait entre les macro-technologies que sont les RFID et donc les nanotechnologies. Voilà. Donc la deuxième journée, donc le vendredi, il y avait un débat sur la tyrannie technologique ou la vie.
Alors la tyrannie technologique ou la vie. Donc rien que le titre pose déjà bien un petit peu le problème du débat et du ressenti que qu'en tant que groupe nous avons eu par rapport à tout ça. Donc c'était un débat qui était organisé par Chiche toujours. Hein, donc c'était le vendredi 16. Et en fait donc il y avait deux groupes qui parlaient, hein, qui étaient venus donc Pièces et Main d'œuvre, donc le collectif Pièces et Main d'œuvre, qui était venu de Grenoble pour parler, enfin le non collectif puisqu'ils ont bien insisté là-dessus, sur le fait qu'ils ne sont pas organisés comme un collectif. Qui sont pas une association non plus, donc Pièces et Main d'œuvre qui venait de Grenoble. Pourquoi Grenoble? Ben, tout simplement parce que c'est là que fin des années 90, début des années 2000 apparemment, l'État français a mis beaucoup d'investissements dans les centres de recherche, notamment Minatech. Donc c'est là où globalement se passent la plupart des choses en France sur les nanotechnologies. Et puis il y avait le groupe Oblomov qui était apparemment, donc il s'est fondé un peu plus récemment, je crois en 2004, en réaction au mouvement Sauvons la Recherche, en se posant la question de puisque le mouvement Sauvons la Recherche c'était globalement, d'après eux, plus d'argent et plus de postes. Ils se demandaient en fait s'il n'y a pas précisément des branches dans lesquelles, des branches qui réclament encore plus d'argent, et qui n'en ont pas réellement besoin, donc notamment, bah, par exemple, dans l'informatique, et de manière plus générale, dans les sciences. Est-ce qu'il n'y a pas... Donc c'est une question qui n'est pas tout à fait, mauvaise. Maintenant, si on regarde un petit peu, Wikipédia, on va voir sur la page néoludisme, donc néo-ludisme de Wikipédia France, eh bien, on se rend compte que sur cette page, on a deux liens. On a un lien vers le collectif, vers le site web du collectif Pièces et Main d'œuvre, et un autre lien vers le site du film, enfin du documentaire Le Silence des Nanos de Julien Collin. Donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pièces et Main d'œuvre est un collectif qui est quand même assez globalement rattaché au mouvement néoludisme. Donc le mouvement néoludisme, c'est le nouveau ludisme. Et le ludisme, en fait, c'était un mouvement qui, pendant la Révolution industrielle, un mouvement d'Angleterre, qui, pendant la Révolution industrielle, s'attaquait aux machines, en disant, voilà, les machines, c'est la cause de... Enfin, c'est utilisé, en fait, par les gros capitalistes pour augmenter leur capital, pour le conserver, pour conserver la propriété privée. Et donc, en fait, les machines, en fait, modifient en profondeur la société, et les ludistes voulaient pas cette modification. Donc on est dans un discours qui est pas forcément foncièrement technophobe, mais qui est quand même pas loin du refus global, et c'est ce que dit en fait Pièces et Main d'œuvre, hein. Ils refusent globalement les nanotechnologies en disant on en a pas besoin. Et donc voilà, et donc pour eux en fait l'idée en fait est de refaire avec les nanotechnologies ce qui a été fait avec les OGM, c'est-à-dire essayer de bloquer globalement, complètement, le plus possible tout du moins, la recherche et les applications techniques des nanotechnologies, en prenant comme étendard donc les technologies RFID. Le groupe Oblomov a également développé, donc il y avait une personne du groupe Oblomov qui a également développé un discours qui était foncièrement anti-informatique, en disant que globalement, que ça soit dans le monde du travail dans le monde en dehors du travail, on va dire, l'informatique a servi l'homme, enfin l'être humain. Et donc ça c'est une position avec laquelle nous ne pouvons pas. C'est une position sur laquelle nous ne pouvons pas être d'accord, malgré le fait que, effectivement, on se pose pas mal de questions, le mouvement à cœur pose pas mal de questions, en fait, sur, globalement, quelle est l'utilisation faite de la science et de la technique, mais avec quand même un point de vue technophile. On est quand même du côté du mouvement à cœur, disons qu'on est quand même très technophile de base. Donc voilà.
Oui. Donc je pense que sur là sur ces sujets d'actualité. On va vous laisser et revenir donc après la pause. Donc pour approfondir ce sujet, on va enfin pouvoir donc écouter la chanson d'OpenBSD 4.6. Donc voilà, on va vous la faire écouter tout de suite. Owns your stuff and owns your butt. Everyone is harmless. Personal robots do it all for you, sitting on your slugget. One channel TV never gonna bore you. Doesn't sound like a paradise or a way to die. Well, alive and a loser. I'm a man from the overpass and I'll never last on the planet of the users. Obsolete before you try them. Does it sound like a paradise or a way to die? While alive and a loser, I'm a man from the open past and I'll never last on the planet of the users. They were using hackers at a doorway. Now it's locked and dumbed down so much. One button come up, stop the future truly out of touch. Does it sound like a paradise or a way to die? While alive and a loser, I'm a man from the open past and I'll never last on the planet of the user. Does it sound like a paradise or a way to die? Donc voilà, c'était donc la planète des utilisateurs, Planet of the User, de l'OpenBSD team. Parce qu'en fait, à chaque sortie d'OpenBSD, la dernière plage du CD d'installation d'OpenBSD est en fait une piste audio. Ce qui permet, si on a une copie du CD, de pouvoir écouter de la musique en faisant son installation. Donc là, la chanson de sortie d'OpenBSD 4.6 parlait donc de la planète des utilisateurs en référence à la planète des singes, où on décrit des utilisateurs lobotomisés par les technologies qu'ils utilisent, par le fait qu'ils en deviennent captifs et qu'ils n'arrivent plus à penser par eux-mêmes. Donc voilà. C'est un petit clin d'œil aux iPhone et iPod et aux polémiques qui ont été lancées avec les DRM et tous les bridages que ces matériels imposent. Donc voilà. En parlant de bridage et de problèmes, c'est cette chanson-là qu'on a essayé de mettre sur un logiciel propriétaire qui s'appelle Winamp. En fait, ça n'a pas marché. On a dû passer sur un logiciel libre pour écouter la musique.
Donc, voilà. Un logiciel libre est rendu illégal par la loi d'Adzi. Bon.
Donc là, on va approfondir un peu les sujets d'actualité. Donc les deux sujets que sont les nanotechnologies et Adopi. Donc voir ce que concrètement, au niveau des RFID et des nanotechnologies, que sont ces technologies, qu'est-ce qu'elles regroupent et et pourquoi faut pas forcément être pourquoi faut pas tout forcément être totalement contre
Donc, alors la première des choses, nanotechnologie, qu'est-ce que ça veut dire ? Nano, ça veut dire 10 puissance moins 9. Donc c'est le milliardième de mètre, en fait. Donc un nanomètre, c'est 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Et donc nanotechnologie, ça veut dire toute petite technologie, ou technologies qui sont à l'échelle du nanomètre. En fait, ça regroupe en fait énormément de branches de l'industrie et de branches de la science. En fait, l'idée, elle est de construire de la matière. À la base, puisqu'en fait on est capable techniquement d'aller voir et d'aller manipuler la matière à l'échelle de l'atome, eh bien on va essayer de créer de toutes pièces de nouveaux matériaux. C'est le cas par exemple des nanotubes de carbone, donc des choses qui apparemment seraient toxiques, mais qui sont déjà utilisées aussi bien dans l'alimentaire que dans certains objets techniques. Et donc ce qui pose la question vraiment de la toxicité de ces choses-là. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait pour les nanotubes de carbone ? Eh bien on agence, globalement, on joue sur l'agencement des atomes de carbone, des molécules de carbone, et puis on construit de nouveaux matériaux comme ça, et on nous les pose dans tout un tas d'objets sans nous dire ce que c'est exactement que ces choses-là. Deuxièmement, sans nous dire non plus qu'il y en a. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans le même schéma en fait que ce qui s'est passé avec les OGM, à savoir si personne avait protesté contre les OGM, on aurait les OGM absolument partout. On en a partout, mais il y a un étiquetage, et puis les gens sont quand même au courant de tout ça. Donc voilà ce que c'est que les nanotechnologies globalement.
Mais donc les nanotechnologies, elles ont des usages. Ce qui embête les personnes, c'est les usages qu'elles pourraient avoir, en fait.
Les usages qu'elles pourraient avoir, il y en a plein, il y en a des tas, aussi bien pour construire des bâtiments, donc des matériaux qui sont plus résistants, des matériaux qui conduisent mieux l'électricité, des matériaux qui ont des propriétés intéressantes au niveau industriel. Et puis, il y a des applications médicales qu'on nous promet. Par exemple, en fait, en médecine, en fait, on parle beaucoup d'utiliser des nanorobots qui iraient dans nos veines pour aller tuer tel ou tel type de cellules, virus ou tumeurs ou que sais-je, cancer ou autre. Qu'est-ce qu'on peut avoir du côté des nanotechnologies ? Oui, en fait, il y a également tout ce qui est miniaturisation de l'informatique, miniaturisation de composants électroniques. Et là, en fait, par exemple, techniquement, on est quand même, pour l'instant, en fait, donc au niveau des RFID. Donc les RFID, donc c'est des outils donc d'identification par onde radio. Donc il faut pour ça un émetteur radio et un récepteur radio. Avec la miniaturisation et les nanotechnologies, on peut faire des choses très 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 petites qui peuvent se glisser dans du textile, dans nos corps, sans qu'on s'en aperçoive. Et donc en fait, c'est effectivement ce danger-là qui est vraiment beaucoup mis en avant avec la toxicité. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là qui est vraiment beaucoup mis en avant par pièces et main-d'œuvre, et puis par d'autres. Boulomov en a parlé un petit peu, mais c'est surtout pièces et main-d'œuvre qui s'en occupent en France à l'heure actuelle. Donc voilà un panel rapide en fait de tous les dangers qui peuvent être au niveau de ces nanotechnologies.
Et il y avait aussi le fait que ces nanoparticules, ces nanosobjets sont un peu plus résistants, peuvent rester dans le sol.
Certaines propriétés peuvent permettre ça, oui, éventuellement, mais encore une fois, c'est des choses sur lesquelles il y a très très peu de communication en dehors de la sphère scientifique. Donc c'est très compliqué en fait en tant que citoyen de s'approprier ces choses-là. Donc il y a les technologies qui peuvent être éventuellement, parce qu'on parle vraiment de milliers de choses quoi, et avec des milliers d'usages. Donc.
Et donc il y avait aussi un deuxième sujet qui était mis en cause dans ce festival, c'était les RFID qui sont de macro-technologie et où en fait c'est il y a d'autres problèmes qui se posent.
Les autres problèmes qui se posent en fait donc sur oui parce qu'en fait ce festival était organisé donc à l'initiative du groupe Chiche, donc un groupe qui se présente comme écolo radical et qui en fait il y a une actualité qui est un petit peu passée inaperçue là-dessus. Bon, par exemple, moi j'étais pas au courant avant qu'on en parle à la braderie. Ce qui se passe en fait à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un gros projet donc qui implique Transpol, la communauté urbaine de Lille, et puis enfin non, c'est Lille communauté urbaine maintenant, il me semble.
Oui, LMCU.
LMCU, il me semble. Et donc voilà, qui serait un espèce de passe partout basé sur des RFID qui permettrait de prendre le métro, qui permettrait de payer le métro,
donc, d'aller à la cantine, d'aller à la bibliothèque municipale,
voilà, donc les services municipaux, parce que des services de transport l'utilisent déjà, c'est pas nouveau. Par exemple à Paris il y a le Pass Navigo qui utilise de l'identification du passager par onde radio. Et donc là, effectivement, ce serait une première en France, peut-être même une première européenne, voire mondiale, le fait que ça ne serve pas que dans le cadre d'une concession de transport public, mais également dans le cadre des services municipaux. Et le danger en fait qui est là-dedans, c'est qu'on peut vous fliquer absolument partout. Vous prenez le métro, vous allez à la cantine, vous prenez le métro pour aller à la bibliothèque, vous prenez le métro pour aller ici ou là, hop hop hop, on peut savoir quelles sont vos habitudes, etc. Parce que toutes ces données-là, forcément, elles sont centralisées. Donc ça pose pas mal de questions sur qui gère ces données-là, comment, dans quelles conditions, avec quels moyens, quelles vont être les conditions d'accès à ces données par les services de police, par les services de l'État de manière plus générale. Il y a des choses à faire, par exemple, sur... imaginez, vous êtes sans papier, vous arrivez par je ne sais quel moyen à vous procurer une carte comme ça pour pouvoir vous déplacer et pouvoir accompagner... pouvoir faire un petit peu un certain nombre de démarches, on peut dire, tiens, il y a une heure, il a sorti de telle station de métro, il est allé à tel endroit, etc. Donc ça pose effectivement de graves, graves problèmes là-dessus. Mais, d'un autre côté, faut bien voir une chose, c'est que les RFID sont des technologies qui ne sont pas forcément super bien conçues, c'est des technologies qui sont hyper fraudables, puisque c'est un émetteur radio qui émet un signal donné sur une fréquence donnée, donc il suffit de capter ce signal, il suffit de se mettre d'écouter sur la fréquence en question, donc trouver la fréquence en question, et de choper le signal, donc ça permet de le dupliquer, premièrement, et deuxièmement, si on arrive à analyser ce signal, par exemple s'il n'est pas chiffré, ou si c'est vraiment des données de base qui ne sont pas chiffrées, on peut réussir à en créer de toutes pièces.
Il y avait eu notamment le cas du métro de Bruxelles, où justement il n'y a aucune donnée qui était chiffrée, et on pouvait refaire le signal RFID. Notamment, alors je ne sais pas si c'est à Bruxelles que ça a été fait, mais il y a des RFID qui ont été imités avec un téléphone portable à partir de l'aimant du haut-parleur.
Ah non, ça c'est pas... c'est un projet, ça nous permet en fait de dire bonsoir aux éventuelles personnes du Templab de Vitry-sur-Seine qui viendraient à nous écouter. Il y a un projet qui s'appelle le Consumer Beagle, désolé pour mon anglais. C'était quelque chose qui a été présenté dans le cadre du Hackerspace Fest 2008. C'était en juin 2008. Donc qu'est-ce que c'est que le Templab ? Rapidement, c'est un hackerspace monté à Vitry-sur-Seine. Donc en pleine zone à côté du RER et du site Céveso 2, enfin du site Céveso, d'une grosse boîte de pharmaceutique qui rejette à l'occasion, qui rejetterait à l'occasion des gaz toxiques. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait en fait dans leur hackerspace ? Eh bien en fait, un jour en allant faire ses courses, quelqu'un a remarqué que y avait un système qui permettait de bloquer les roues du caddie à la sortie du parking, ce qui permettrait en fait éventuellement d'éviter les vols de caddies, parce que on vit dans une société où les gens vont même jusqu'à voler les caddies, rendez-vous compte. Et ben en fait, donc ils ont piqué un caddie, ils l'ont ramené dans leur labo. Et puis, et ben en fait, ils ont commencé à essayer de reproduire le signal qui permet de bloquer et également le signal qui permet de débloquer les roues. Ils se sont rendu compte que déjà premièrement ils ont réussi à isoler ces signaux, et deuxièmement ils ont réussi à les faire marcher. Donc c'est pas tout à fait des RFID, c'est des choses qui c'est un champ magnétique en fait. Donc c'est un champ magnétique, et donc ils ont réussi en fait à donc c'est un effet secondaire en fait. Oui, donc comment ils ont fait pour le... Excusez-moi. Comment ils ont fait ? Eh bien tout simplement en fait ils ont créé une plage musicale en fait, un fichier sonore qu'ils ont mis aussi bien pour les lecteurs MP3 qu'une sonnerie pour téléphone cellulaire. Et donc il y en a deux sons, il y en a un pour bloquer les roues des caddies, et il y en a un autre pour débloquer les roues des caddies. Donc comment ça marche? En fait le son fait générer un champ électromagnétique au niveau du haut-parleur, et c'est en fait ce rayonnement électromagnétique qui déclenche en fait le blocage ou le déblocage des roues. Donc c'est pas tout à fait la musique en elle-même, c'est le champ électromagnétique du haut-parleur. Ce qui signifie en fait que pour le faire à très grande échelle, c'est très simple, il suffit d'augmenter la puissance du haut-parleur. Donc ça en fait c'est par exemple pratique dans le cadre par exemple des journées sans achat. C'est tout simple, vous avez un téléphone portable qui permet en fait, enfin la sonnerie sonne et ça bloque les roues des caddies aux alentours en fait. Donc c'est une idée, une application qui peut être qui est effectivement marrante et ludique, mais qui en même temps illustre en fait très bien le fait que ces technologies sont certes très dangereuses, mais elles sont en même temps faillibles. Et cette faillibilité permet en fait éventuellement d'organiser, si ce n'est une résistance concrète, mais tout au moins une appropriation citoyenne de ces technologies-là.
Je pense que sur ces sujets d'actualité, avant de partir sur la partie technique et donc de parler certainement un peu des nouveautés du projet BSD avec la version 4.6, donc là on va partir sur une petite place musicale. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 FM. Vous pouvez nous appeler donc pendant la pause au 0320 91 24 00, et donc on vous retrouve tout de suite après. Donc, de retour sur Radio Campus, donc random, l'émission vraiment, vraiment aléatoire sur ce coup. Donc, avec comme sujet, donc là, on va plutôt creuser donc, la loi Hadopi au niveau technique.
T'as pas présenté la musique?
Oui, oui, exactement. Donc la musique, c'était donc Mésozoïque de l'album Mother Earth de l'artiste Wynn Pearl, donc qui est un artiste de musique libre qu'on peut retrouver donc sur des sites comme Dogmazic ou Jamendo, et qui sera donc disponible sur la page donc de l'émission Random, donc sur lille.dg-sc.org/random.
RNDOM.
Voilà. Donc au niveau de Hadopi, donc il y a eu jeudi la censure.
La censure partielle, on va dire. Non. Très partielle.
Très 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 partielle. Oui, juste de l'article donc 6 alinéa 2 donc de la loi donc de.
C'est la loi création et internet machin.
Non, de la loi donc Hadopi 2. Donc il y a cet alinéa, en fait, ça ne change pas grand-chose. Il y a juste le législateur qui va devoir, au niveau de l'ordonnance pénale, va devoir va spécifier dans quel cadre ça s'applique. Parce que là, le problème que le Conseil constitutionnel a mis en avant, c'est simplement que tout ce qui est procédure pénale, donc la façon dont dont la justice se fait, donc avec l'investigation, avec les saisines, avec le jugement, en fait, le législateur doit vraiment tout mettre dans la loi pour tout ce qui est procédure pénale. On peut pas faire de décret ou d'ordonnance pour cet élément-là. Voilà. Donc, en gros, c'est la censure partielle est vraiment minime, mais le gros du projet est donc a été validé. Ce qui est assez étonnant quand on voit la virulence de la décision du Conseil constitutionnel sur Hadopi 1. Voilà. Mais, donc, comme on le disait en début d'émission, ça n'a pas changé grand-chose, parce que maintenant, on utilise de moins en moins de logiciels de peer-to-peer, vu que le peer-to-peer a été... dans une récente étude, donc des flux transportés par les FAI, donc le peer-to-peer évalué à moins de 18%, à peu près 18%, donc ça a tendance à être remplacé par le streaming. Or, le streaming ou le téléchargement direct, bien souvent maintenant il y a des sites auxquels il faut s'abonner et ou des serveurs FTP ou des serveurs HTTP privés. Donc, sans aucun logiciel de chiffrement, alors qu'avant on avait une architecture décentralisée, mais où on avait vraiment la liste de tous ceux qui téléchargeaient, là maintenant ça va être au cas par cas des serveurs qui mettent à disposition des fichiers. Pas toujours accessible publiquement, donc ça va être vraiment un casse-tête beaucoup plus important pour les ayants droit pour lutter contre le téléchargement.
Plus important, et puis surtout complètement hors de portée des moyens des polices privées des majors qui ont été complaisamment agréés par la CNIL bien avant le projet de loi. C'était en 2008, il me semble. Il y a eu en fait donc un certain nombre d'entreprises mandatées par les majors qui ont obtenu l'agrément de la CNIL pour aller récupérer les adresses réseau des personnes qui mettent à disposition des fichiers sur internet dans les réseaux peer-to-peer, parce que ces listes là on peut les avoir très facilement, c'est les réseaux de partage de fichiers, donc quand on partage quelque chose, et ben derrière on dit qu'on partage et donc de manière à ce que les autres puissent venir télécharger. Et donc tous ces moyens-là qui ont été mis en place pour que ces polices privées puissent faire leur sale travail, eh bien en fait, ça y est, c'est déjà complètement obsolète de base, sans même parler de crypto. Alors si en plus on parle de cryptographie, là ça devient complètement un casse-tête, et c'est ingérable quoi.
Ouais, donc justement, en parlant de cryptographie, il y a des solutions qui rendent caduques Adopi. Donc il y a notamment The Pirate Bay il y a quelques mois qui avait mis en avant sa solution de VPN.
E-Predator.
Oui, E-Predator. Il y a des Darknet qui se sont mis en place, différents Darknet. C'est le même principe que donc c'est le. Toujours des VPN, mais là donc décentralisé, où chaque îlot chaque réseau gère sa plage et va pirer avec d'autres donc réseaux. Donc on a un espèce d'internet dans l'internet qui vient se mettre en place, et le tout sécurisé par des déchiffrements entre les différents réseaux. Donc là, c'est encore une façon de noyer les informations, parce que tout passe par des plages privées, où les informations ne vont jamais être routées sur Internet, et en plus c'est chiffré, donc il n'y a pas...
En fait, du point de vue du surveillant qui se met sur la ligne et qui écoute ce qui se passe, il voit du flux qui est chiffré, donc déjà de base incompréhensible pour lui, à moins d'avoir les moyens de déchiffrer à la volée. Et puis en plus, même s'il arrive à chiffrer à la volée, de toute façon, tout ce trafic, il est incapable de l'analyser parce que il n'a pas toutes les données de ses réseaux, il n'a pas les données de configuration de ses réseaux privés. Et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que tous ces réseaux privés, donc c'est des techniques qui sont utilisées massivement dans l'entreprise, dans le monde professionnel, pour par exemple, quand on a d'un côté un entrepôt et puis de l'autre côté le magasin, on veut avoir un réseau informatique qui soit uniforme sur les deux sites, pouvoir accéder à la base de données de l'entrepôt depuis le magasin et inversement. Et donc ces technologies, c'est un véritable réseau, c'est un internet dans l'internet, donc c'est pas uniquement dédié au téléchargement. C'est-à-dire que les personnes qui vont monter des darknets uniquement pour faire du téléchargement, derrière en fait, ils vont pouvoir faire tout et n'importe quoi avec. Et donc, non seulement on fait des lois qui, d'ailleurs, vont être complètement inutiles, on va gâcher l'argent...
Mais qui risquent d'être dangereuses, en plus.
Et puis qui, effectivement, risquent d'être dangereuses, parce que derrière, en fait, les gens vont se rendre compte qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi en étant complètement à l'abri de la surveillance, alors qu'à la base, ils voulaient juste télécharger Pénard.
C'est le problème, d'ailleurs, que pose Tor, en fait, où il y a une partie... une partie de l'usage de Tor qui est pour échapper à la censure, donc c'est des journalistes, c'est des militants politiques dans des dictatures, ou même l'armée américaine l'avait utilisé dans un conflit, je ne sais plus lequel, mais donc Tor avait été utilisé. Par contre, ce chiffrement, c'est pas tout à fait... Ça peut être, on peut avec beaucoup de moyens réussir à isoler des informations qui sont quand même qui transitent dans un espace local, dans un espace privé, un espace d'adressage privé et de façon chiffrée, puisque c'est ce qui avait été fait avec Tor, je ne sais pas s'il chiffre, mais donc en fait on générait à un bout du réseau beaucoup de flux. Vers une adresse, beaucoup de données, beaucoup de paquets, ce qui avait tendance donc à surcharger un peu les routeurs par lesquels passaient les données, et donc à l'autre bout, c'était il y avait les données qui arrivaient, mais donc ce flou d'informations avait tendance à être visible sur les différents routeurs du réseau. Donc on pouvait deviner la topologie du réseau en étant connecté à un bout et en floudant le réseau et en analysant le transit sur différents routeurs du réseau.
Donc il y a des stratégies de surveillance qui peuvent éventuellement s'avérer un petit peu efficaces.
Mais elles nécessitent beaucoup de moyens, et surtout si on met en place à la fois une stratégie de chiffrement et d'adressage privé. Donc déjà ça permet de vraiment d'handicaper vraiment les personnes qui essayent de voir ce qui se passe. Et en plus, si on se base sur la confiance, donc comme pour tout ce qui est technologie JPG ou comme certains logiciels donc de peer-to-peer dit F2F, friend to friend, donc en restant vraiment dans un réseau de confiance et en ne relayant les informations et en échangeant les informations qu'avec son réseau de confiance, là ça devient pratiquement impossible.
Donc en créant des petits îlots, des petits îlots dans Internet, et donc voilà, et on a des gens qu'on connaît qui viennent nous voir dans les studios, c'est cool.
Bon. Et donc là, je pense qu'il va être temps de passer à l'agenda. Donc du groupe DGSC.
Alors l'agenda du groupe DGSC et de ce qui se passe à Lille, parce qu'on s'occupe pas de tout quand même. Bon, donc la première des choses, on va le faire dans l'ordre chronologique, histoire de commencer de manière un peu moins aléatoire que le reste de l'émission. Alors donc vendredi 6 novembre 2009, à 19h30 sur la Grand Place de Lille, enfin donc le rendez-vous se trouve à 19h30 Grand Place de Lille, c'est le meeting 2600 Lille. Donc qui n'est pas organisé par DGSC, qui n'a rien à voir avec nous, qui est une rencontre informelle et parfaitement indépendante de tout groupe et association. Hein. Donc si vous voulez discuter, ça peut être un très bon point d'entrée également vers le milieu hacker et toute la contre-culture hacker. Donc vendredi 6 novembre à 19h30, Grand Place de Lille. Vous pouvez avoir toutes les infos sur www.2600lille.org, mais le site n'est pas à jour à l'heure actuelle. Voilà, dimanche 8 novembre, prochaine émission de Random.
Oui, puisque l'émission, pour l'instant, se fait une semaine sur deux. Donc le temps de préparer du contenu et d'anticiper un peu les prochains problèmes techniques et donc d'arriver avec des solutions de secours et...
Limitons l'aléa.
Voilà.
On va s'inspirer de Debian. Donc dimanche 8 novembre, prochaine émission en homme.
Je ne
donc...
sais pas si le s'inspirer de Debian sur ce coup-là
est une excellente solution. Donc dimanche 8 novembre, 19h-20h, prochaine émission en homme. Et puis donc mardi 10 novembre, on en a parlé tout à l'heure, donc la conférence, donc le mardi du libre de Stinux, avec le président qui est venu nous voir, président. Et donc conférence dans le cadre des mardis du libre organisée par l'association Stinux, www.stinux.org. Donc conférence qui sera dédiée au système OpenBSD 4.6, découverte OpenBSD 4.6. Voilà.
Voilà. Et donc vous pouvez nous retrouver donc en attendant la prochaine émission, donc sur le canal random du serveur Silk,
c'est le réseau Silk, donc silk.dg-sc.org. Et vous avez toutes les informations sur le site web du réseau de discussion du réseau de discussion privé et enfin privé non public mais chiffré mais sécurisé, www.dg-sc.org/silk, SILC. Donc voilà, donc il y a un canal dédié à l'émission, le canal random. Et puis lille.dg-sc.org pour avoir... on avait publié un communiqué donc, sur la loi Hadopi, on avait également publié un communiqué sur la loi Hadopi, et puis un communiqué sur... on avait publié le manifeste pour la création d'une organisation hacker en France que vous pouvez retrouver en PDF là-dessus.
Donc tout de suite, on va vous laisser avec Chupa Pimento, donc l'émission électronique. Ouais, on vous retrouve dans deux semaines.
A ciao, bye bye.
Chepa Pimienter. Chepa Pimienter.